Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 22 juin 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Tout d'abord, les titres. En Guinée, nouvel ajournement du procès de l'ex-dictateur Dadis Camara pour un massacre commis le 28 septembre 2009. En Sierra Leone, heurt avec les forces de sécurité lors d'une manifestation de l'opposition, 3 jours avant l'élection présidentielle de samedi. En Ouganda, l'opposition demande de rapatrier les troupes déployées à l'étranger pour renforcer la sécurité après un massacre dans un lycée imputé à des djihadistes. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden déroule le tapis rouge au premier ministre indien Narendra Modi. Le sommet climat de Paris va tenter ce jeudi de débloquer les financements pour les pays en développement. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En Guinée, le procès de l'ex-président Moussa Dadis Camara, jugé pour le massacre du 28 septembre 2009, a de nouveau été ajourné au 10 juillet. Il devait reprendre après 3 semaines de suspension suite à un boycott des avocats. Nathalie Nanitalani.
C'est une grève des gardiens de prison qui, en l'absence des accusés, a causé le renvoi du procès au 10 juillet. Ils ont déclenché une grève dans toutes les maisons d'arrêt du pays avec plusieurs revendications, une augmentation des salaires, selon une déclaration faite à la prison civile de Conakry. Ce procès a été suspendu le 29 mai à cause des avocats refusant de plaider parce qu'ils disaient n'avoir toujours pas été payés. Alors que les avocats étaient de retour dans le prétoire hier matin, après un accord avec les autorités, les accusés ont manqué à l'appel, ce qui a conduit la cour à reporter l'affaire. Il s'agit d'une nouvelle déconvenue pour les victimes et leurs proches qui attendent beaucoup de ce procès, le premier du genre dans le pays. L'ex-président Moussa Dadis Camara et une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux répondent depuis le 28 septembre 2022 à des accusations d'assassinat, de violences sexuelles, tortures, enlèvements et séquestrations le 28 septembre 2009. Au moins 156 personnes ont été tuées et 109 femmes ont été violées, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU.
En Sierra Leone, des heurts ont opposé hier à Freetown les forces de sécurité et des partisans du principal candidat de l'opposition à la présidentielle, 3 jours avant l'élection qui opposera samedi le président sortant Julius Maada Bio, un militaire à la retraite et le technocrate Samora Camara. L'APC, le congrès de tout le peuple de M. Camara, avait appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays contre ce qu'il dénonce comme des anomalies dans le processus électoral. La police a annoncé 66 arrestations. En Ouganda, l'opposition a demandé hier le rapatriement des troupes ougandaises déployées à l'étranger pour renforcer la sécurité après un massacre la semaine dernière dans un lycée imputé à des djihadistes. Massacre qui a fait au moins 42 morts. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les victimes, surtout des étudiants, ont été tuées à coups de machette, abattues par balles ou brûlées vives dans la nuit de vendredi à samedi au lycée Lobiria, à un pont doué non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Peu après l'attaque, des responsables de l'armée et de la police avaient incriminé les forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Hier, Abdallah Kiwanuka, un responsable de l'opposition, a demandé au gouvernement de ramener à la maison les forces déployées à l'étranger, notamment en Somalie. 21 personnes ont été arrêtées, certaines suspectées d'être des collaborateurs des rebelles ADF. Des questions restent en suspens sur la façon dont les assaillants ont réussi à commettre ce massacre et à s'enfuir dans une région sous forte présence militaire. Cette attaque est la plus meurtrière en Ouganda depuis un double attentat à Kampala en 2010 qui avait fait 76 morts et qui a été revendiqué par les islamistes somaliens.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef du groupe mercenaire Wagner a accusé mercredi les hauts gradés de Moscou de tromper les Russes sur le déroulement de l'offensive ukrainienne. Il a souligné les progrès réalisés par Kiev sur le champ de bataille, Mohamed Oumfa.
Le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine, dont les forces ont mené pendant des mois un assaut sur les villes de l'est de l'Ukraine, a accusé le ministère russe de la Défense de ne pas dire la vérité et de perdre les territoires au profit des troupes ukrainiennes. Ils induisent le peuple russe en erreur, a-t-il déclaré dans un message audio diffusé par ses porte-paroles. Un certain nombre de villages ont été perdus, a déclaré M. Prigogine, soulignant le manque d'armes et de munitions. Des pans entiers ont été livrés à l'ennemi, a-t-il déclaré. Tout cela est totalement caché à tout le monde. Un jour, la Russie se réveillera et découvrira que la Crimée a elle aussi été cédée à l'Ukraine, a-t-il ajouté. Prigogine prend ainsi le contre-pied du président russe Vladimir Poutine, qui a déclaré à plusieurs reprises que l'offensive ukrainienne était vouée à l'échec. Mercredi, M. Poutine avait de nouveau insisté sur le fait que les troupes ukrainiennes ont subi de sérieuses pertes et avait déclaré qu'il y avait une certaine accalmie sur le front.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'apprête à recevoir le premier ministre indien Narendra Modi à la Maison-Blanche pour sa première visite d'État. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le premier ministre indien Narendra Modi va être reçu avec faste à Washington. Honneurs militaires, discours devant le Congrès américain et repas de gala sont prévus ce jeudi. Cette relation bilatérale, qui sera selon nous l'une des plus importantes pour l'avenir du monde, a un potentiel énorme, a assuré mardi un porte-parole de l'exécutif américain John Kirby. Une série d'annonces dans les domaines de la coopération, la tech et la transition énergétique sont prévues. Les deux dirigeants sont aussi attendus sur la défense, à l'heure où les États-Unis manœuvrent pour contenir les ambitions stratégiques de la Chine. Narendra Modi a promis de faire respecter l'Inde sur la scène internationale avant les élections prévues en 2024. Comme pour toute visite d'État, le but de Joe Biden sera de gommer publiquement les divergences, quitte à mettre en sourdine les préoccupations sur deux sujets, les droits humains et la relation entre l'Inde et la Russie.
Une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement se réunissent ce jeudi à Paris pour tenter de débloquer la refonte du système économique mondial. Je le sens, nous pouvons faire une énorme différence pour la planète et contre la pauvreté, a tuté mercredi le président français Emmanuel Macron, hôte de ce sommet pour un nouveau pacte financier Yacouba Ouédraogo.
L'argent manque par milliers de milliards de dollars pour que la majorité de l'humanité puisse affronter la crise climatique et sortir de la pauvreté. William Ruto, le président kényan, sera présent, tout comme une vingtaine de dirigeants africains dont plusieurs ont récemment haussé le ton contre les pays riches plus prompts à verser des milliards pour soutenir l'Ukraine en guerre. L'objectif du sommet est de rénover en urgence l'architecture financière internationale née des accords de Bretton Woods en 1944 avec la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'accès à leur financement est jugé difficile par les pays en développement alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicule, sécheresse et inondation, mais aussi pour sortir de la pauvreté tout en s'affranchissant des énergies fossiles et en préservant la nature.
Israël a détruit aujourd'hui à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, le domicile d'un Palestinien accusé d'avoir tué un soldat en octobre 2022, ont annoncé des témoins et l'armée. Une politique décriée par les organisations de défense des droits de l'homme, qui la qualifie de châtiment collectif, mais dont le gouvernement israélien défend l'effet dissuasif. Par ailleurs, trois Palestiniens présentés par l'armée israélienne comme membres d'une cellule terroriste ont été tués mercredi soir dans une frappe de drone en Cisjordanie occupée à l'issue d'une nouvelle journée de violence dans ce territoire. Au moins 31 personnes ont été tuées par une explosion qui a eu lieu mercredi soir dans un restaurant de la ville de Yinchuan, dans le nord-ouest de la Chine. Selon l'agence officielle Chine Nouvelle, une fuite de gaz de pétrole liquéfié a provoqué une explosion lors du service d'un restaurant de barbecue.
La Minute Éco, Nani Talani.
L'entreprise publique marocaine, l'OPC Group, veut produire 200 000 tonnes d'ammoniac par an d'ici 2026, passant à 1 million de tonnes d'ici 2027 et 3 millions de tonnes d'ici 2032. Son projet d'utiliser l'hydrogène produit à partir de l'électrolyse solaire et éolienne comme matière première pour fabriquer de l'ammoniac fait partie d'une stratégie de 13 milliards de dollars de passer aux énergies renouvelables. Ikongwe Mine, la seule exploitation minière de minerais de fer du Botswana, détenue par une société indienne, a arrêté sa production en raison de la chute des prix à l'exportation du minerai, a déclaré un haut responsable de la société. Les prix du minerai de fer sur le marché mondial sont tombés à environ 100 dollars la tonne en raison de la faible demande d'acier et de la morosité du marché immobilier chinois, alors que les coûts logistiques restent élevés. Pour terminer, aux États-Unis, la Réserve fédérale avertit que les taux d'intérêt risquent de repartir à la hausse. Selon le président de la FEC, Jerome Powell, un ou plusieurs relèvements supplémentaires sont à prévoir, mais à un rythme plus lent qu'auparavant. Par ailleurs, les salaires ont fortement augmenté, le manque de main-d'œuvre poussant les employeurs à offrir de meilleures conditions pour attirer les candidats et retenir leur personnel. Mais l'inflation est si élevée qu'elle engloutit les hausses des salaires, déplore le président de la Fed.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La Fédération malienne de basketball se dote de textes protégeant davantage ses jeunes joueurs.
Oui, des textes pour la sauvegarde des filles et garçons dans le milieu du basketball au Mali sont entrés en vigueur depuis le 10 mai dernier. Il s'agit des textes élaborés par le Conseil national de la Fédération malienne de basketball pour sanctionner d'éventuels cas de harcèlement sexuel dans le milieu de la balle au panier. C'est ce qu'a affirmé le président de la Fédération malienne de basketball lors d'une conférence de presse. Le compte rendu de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Pendant longtemps, le Mali a été considéré comme une terre de pédophilie s'agissant du milieu du basket, alors qu'il n'en est rien, affirme maître Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball. C'est ce qui justifie d'ailleurs, selon lui, l'élaboration et l'adoption des textes sous l'œil vigilant des FIBA pour lutter contre le phénomène.
Depuis 2 ans, nous nous battons pour prouver que nous ne sommes pas une terre de pédophilie, qu'il peut y avoir des brebis galeuses parmi nous, que nous extirperons bien sûr, mais que l'ensemble des formateurs du Mali, l'ensemble des dirigeants du Mali sont de bonnes mœurs, de bonnes familles et que ce ne sont pas des pédophiles.
Il était nécessaire de mettre en place ce mécanisme d'identification et de remonter des plaintes, a ajouté le premier responsable du basketball au Mali.
Faire remonter les informations à chaque fois qu'il y a un soupçon sur un entraîneur, sur un dirigeant, sur un supporter, sur quelque intervenant que ce soit dans le milieu du basket. Il faut que ces victimes soient prises en charge aussi. Il faut beaucoup de sensibilisation parce que chez nous, les langues ne se délient pas facilement.
L'application de ces nouveaux textes a déjà commencé, nous apprend maître Jean-Claude Sidibé.
Au niveau de la fédération, tout le monde s'est engagé sur une fiche pour dire que je veux un basket propre, je veux un basket sans harcèlement sexuel. Ce même document doit être adopté par les ligues, les districts, les clubs, les centres de formation, afin que tout le monde soit engagé.
Une commission d'éthique composée de 5 membres, dont 3 femmes, a été mise en place. Chaque fois qu'une question de mœurs se posera, la commission sera saisie pour donner un avis motivé au niveau de la fédération. Siaka Traoré, Bamako pour VOA Afrique.
Mondial féminin de football, les États-Unis dévoilent la liste des joueuses convoquées.
Alex Morgan et Megan Rapinoe conduiront sans surprise le groupe américain convoqué pour la prochaine Coupe du Monde féminine, prévue du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Morgan, 33 ans, et Rapinoe, 37 ans, mais aussi Kelly Aura, 34 ans, disputeront à cette occasion leur 4e mondial dont elles sont double tenantes du titre. 6 autres joueuses présentes dans la liste des 23 retenues par le sélectionneur Vlatko Andonovski faisaient partie du sacre en France en 2019. La préparation de l'équipe américaine a toutefois été perturbée par une série de blessures, dont celle de la capitaine Becky Sauerbrunn, qui a dû déclarer forfait pour le mondial. Les États-Unis débuteront contre le Vietnam le 22 juillet à Auckland.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le premier ministre indien, Narendra Modi, va donc être reçu avec faste à Washington, honneur militaire, discours devant le Congrès américain et repas de gala sont prévus ce jeudi. De New Delhi, Anjana Pasricha explique que les deux puissances partagent des préoccupations mutuelles, dont la Chine. Le récit est de Gabi Dorsil.
Avec la visite d'État du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères indien a déclaré que les relations entre les deux pays ont considérablement progressé. Subramaniam Jaishankar est le ministre indien des Affaires étrangères.
Le paysage stratégique de la région Indo-Pacifique a changé de façon spectaculaire. Washington et New Delhi reconnaissent qu'ils doivent travailler en étroite collaboration pour stabiliser la situation. Cette clarté stratégique signifie que, pour l'Inde, le renforcement de liens avec un pays aux vues similaires comme les États-Unis est devenu un impératif stratégique.
L'argument le plus fort est la montée en puissance de la Chine. Modi vient aux États-Unis alors que les liens entre New Delhi et Pékin se sont amoindris à la suite d'une impasse militaire de 3 ans qui a incité l'Inde à travailler en étroite collaboration avec Washington pour faire contrepoids à une Chine qui s'affirme de plus en plus, selon Harsh Pant de l'Observer Researcher Foundation.
On peut considérer le volet technologique de la relation, le volet commercial aussi, la convergence politique et les intérêts stratégiques. Je pense donc qu'il existe des arguments très convaincants en faveur du renforcement des relations entre l'Inde et les États-Unis.
Pendant son séjour, Modi s'adressera à une session conjointe du Congrès américain. En amont de la visite, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est montré optimiste.
Nous sommes donc ici à la veille de ce que nous pensons être une visite d'État historique du Premier ministre Modi, qui renforcera ce que le président Biden a appelé la relation déterminante du 21e siècle.
Toutefois, dans un contexte géopolitique changeant, les deux pays ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. L'Inde a fermement défendu le maintien de liens amicaux avec la Russie à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. Moscou est devenu le principal fournisseur de pétrole brut de New Delhi. Les critiques ont également exprimé des inquiétudes quant au recul de la démocratie en Inde. Mais la visite de Modi s'appuiera sur les intérêts communs, alors que les deux pays, les États-Unis et l'Inde, se concentrent sur leur objectif commun de contrer la Chine. On s'attend à ce que la visite de Narendra Modi renforce une relation désormais considérée comme mutuellement bénéfique pour les deux parties.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Burkina Faso, le village de Tien vit de l'exploitation de l'or. Plusieurs personnes qui ont fui les groupes armés sont venues s'installer dans ce village à 60 km de Bobo-Dioulasso. Orokia Kanko est une femme déplacée qui s'est investie dans l'orpaillage et la restauration. De Bobo-Dioulasso, un reportage de notre correspondant Alidou Ouedraogo.
Situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, le site d'orpaillage de Tien est le point de convergence de plusieurs personnes déplacées internes. C'est le cas de Orokia Kanko. Elle a quitté Dédougou à plus de 100 km de Bobo-Dioulasso quand les combats faisaient rage. Ici, elle est restauratrice et en même temps orpailleuse.
Quand les conditions sont favorables, je fais de l'orpaillage pour mes besoins en vêtements, chaussures et autres.
Grâce à cette activité, elle gagne dignement sa vie.
Je peux réaliser un chiffre d'affaires de 13 000 francs CFA par jour. Mais avant, je gagnais plus que cela. Je pouvais gagner jusqu'à 45 000 francs.
Au Burkina Faso, plusieurs sites d'orpaillage ont été fermés parce que refuge de groupes terroristes. Sur le site de Tien, des orpailleurs se sont organisés, comme le précise Daouda Ouattara, un des responsables des lieux.
Nous avons mis en place un comité de surveillance qui veille sur la sécurité du site qui filtre les entrées.
Toute personne étrangère est soumise à un interrogatoire et si nous ne sommes pas convaincus, nous le mettons aux arrêts et le remettons aux forces de défense et de sécurité.
C'est la croix et la bannière pour les déplacés qui arrivent pour la première fois sur le site d'Orpayas de Tien. Alidou Ouédraogo, du retour de Tien pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Suite de notre série sur les réfugiés, ce matin, nous allons à la rencontre d'un jeune réfugié somalien, Aden Abdoulahi. Il a surmonté de nombreuses difficultés en le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, qu'il a fui après avoir décliné une invitation à rejoindre le groupe militant Al-Shabaab en Somalie. Aujourd'hui, il est journaliste et travaille avec la station de radio communautaire pour réfugiés Radio Gargar, soutenue par le HCR. À l'occasion de la journée des réfugiés, le 20 juin, la VOA s'est entretenue avec Abdoulahi sur son travail et ses rêves. Le récit est d'Alexandrine Hollognon.
Dans un conteneur situé dans l'un des trois camps de réfugiés du nord-est du Kenya, Aden Abdoulahi présente la matinale sur Radio Gargar. Âgé de 25 ans, Abdoulahi affirme que sa carrière de journaliste est un rêve devenu réalité. Contraint à l'exil alors qu'il était adolescent, après avoir rejeté un appel à rejoindre Al-Shabaab, Abdoulahi explique qu'il aspire à raconter les histoires qu'il a vues pendant qu'il vivait dans le camp.
J'ai constaté de nombreuses lacunes dans les médias des camps de réfugiés de Dadaab. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent, mais personne ne les couvre. C'est pourquoi j'ai essayé de combler ces lacunes et de devenir la voix des sans-voix.
Abdoulahi fait partie des plus de 600 jeunes réfugiés qui ont bénéficié d'un programme de formation technique et professionnelle proposé par le Conseil norvégien pour les réfugiés dans les camps. Godfrey Kibé est le responsable du programme de la région de Dadaab pour le Conseil norvégien pour les réfugiés.
Most youths, once they are able to complete primary education, high school, they have limited opportunity.
La plupart des jeunes, une fois qu'ils ont terminé l'enseignement primaire et secondaire, ont peu de chances d'accéder à l'enseignement supérieur, et plus particulièrement à l'université. C'est pourquoi, en tant que NRC, nous avons décidé de nous lancer dans l'offre de compétences techniques destinées aux jeunes. Les compétences que nous fournissons sont davantage axées sur le marché. Nous évaluons le marché et examinons les possibilités qui s'offrent à nous dans l'ensemble de Garissa, mais aussi à Dadaab. C'est à partir de là que nous avons élaboré les différents cours que nous proposons aux jeunes, garçons et filles.
Le réfugié congolais Elie Amouli, journaliste numérique et producteur de télévision en herbe, est également bénéficiaire du programme.
Le fait d'être réfugié ne limite pas les capacités d'une personne. Je pense que les capacités d'une personne qui est, disons, un Kenyan de nationalité, et vous, en tant que réfugié, la seule différence que vous avez concerne le statut. Mais pour le reste, je pense que nous sommes les mêmes.
À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, Aden Abdoulahi a couvert une célébration dans le camp de réfugiés. Ce jeune homme de 25 ans, que ses auditeurs appellent communément Murtilé, ce qui signifie une personne formidable en Somalie, explique que sa joie vient du fait qu'il met en lumière des histoires concernant sa communauté dans les camps. Leila Khalif, réfugiée somalienne et auditrice de Gargar Radio, explique que la station est devenue un lien entre la communauté des réfugiés et les agences humanitaires opérant dans le camp.
J'écoute la station pour obtenir toutes les nouvelles et les informations sur ce qui se passe dans le camp, en particulier sur les activités des organisations humanitaires qui opèrent ici. C'est le lien entre nous et les organisations.
Le Kenya accueille plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, principalement en provenance de la Somalie et du Soudan du Sud. En 2021, le pays a adopté une loi visant à promouvoir l'intégration sociale des réfugiés en leur permettant d'accéder à des opportunités d'emploi. Les réfugiés formés comme Abdoulahi espèrent que les compétences qu'ils ont acquises leur ouvriront davantage de portes.
le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Cameroun, dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, un projet pour combattre cette maladie en communauté et en clinique a été lancé à Yaoundé, la capitale. Les femmes de 25 à 50 ans sont ciblées. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
L'association de lutte contre les violences faites aux femmes et le Centre international de recherche d'enseignement de soins sont les deux organisations en charge de la mise en œuvre de ce projet. Docteur Sandrine Niotué, coordinatrice du projet.
On souhaite entrer dans les communautés afin d'être au plus près de la cible et de sensibiliser les femmes concernées par la maladie. Nous souhaitons proposer les dépistages en communauté et en clinique et plusieurs innovations seront associées à la procédure utilisée. Les femmes pourront se prélever elles-mêmes. En plus de cela, il y a des tests innovants qui seront utilisés afin de poser le diagnostic le plus affiné possible.
La sensibilisation va se déployer dans le deuxième arrondissement de Yaoundé avec des descentes au sein des communautés, mais également en clinique afin de toucher les femmes vivant avec le VIH/SIDA, la couche à risque, à même de développer cette pathologie. Victorine Seyi, chef du projet Combattre le cancer du col de l'utérus en communauté.
Il s'agit pour nous d'entrer dans le district de santé de la Cité Verte. Lorsqu'on dit district de santé de la Cité Verte, c'est 9 quartiers, 9 villages qu'on pourrait citer. En fait, ici, c'est une maladie qui est ignorée, mais qui est aussi couverte les tableaux socio-culturels.
Selon l'OMS, le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent chez les femmes au Cameroun. 1900 femmes en sont mortes en 2019, mais ces données sont sous-estimées d'après les experts, d'où la nécessité d'intégrer une approche innovante de diagnostic de la pathologie. Mireille Fock, biologiste au projet.
Nous avons cette approche de recherche qui est innovante, qui permet grâce au test de diagnostic biologique d'avoir un résultat, non seulement qui nous dit si le virus est présent, parce que c'est un cancer qui est provoqué par le virus, mais également nous dit à quel niveau d'infection est-ce que, ou de transformation de la cellule est-ce que nous retrouvons. C'est une innovation parce qu'habituellement, pour déclarer qu'il y a un cancer, on passe par une autre technique qu'on appelle l'anatomopathologie.
5% des femmes entre 30 et 49 ans ont bénéficié d'un dépistage au cours des 5 dernières années au Cameroun, selon l'OMS. Mireille Fock, biologiste.
Quand on fait un diagnostic précoce, on a la chance, si on est dépisté positif ou alors avec un début de cancer, d'être soigné au plus tôt et d'avoir une guérison à des faibles coûts et sans que votre système forcément soit atteint.
Le gouvernement soutient ce projet qui va s'étendre jusqu'en 2026. 3 structures sanitaires publiques vont accueillir les femmes pour les dépistages et leur prise en charge gratuite. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Firmin Koyaweda, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.